Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Loridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Deuxième temps de notre semaine consacrée au multilatéralisme en crise, alors que les Nations Unies ont entamé leur 75e Assemblée Générale. Après nous être intéressés hier justement au rôle de cette institution, avant d'aborder demain la question de la coordination mondiale pour la sauvegarde de la biodiversité, et puis jeudi la gouvernance mondiale d'Internet, tournons-nous ce matin vers une organisation particulièrement malmenée, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC.
Ma décision était prise après une longue et dure réflexion et de nombreuses discussions avec ma famille. Je crois que j'ai pu contribuer à maintenir l'OMC en tant que pilier essentiel de la gouvernance économique mondiale dans une période difficile pour la coopération multilatérale.
L'OMC a très mal traité les États-Unis et j'espère qu'ils vont changer leur façon de faire. Ils nous traitent très mal depuis de nombreuses années et c'est pourquoi nous avons été très désavantagés par l'OMC. Nous n'avons encore rien décidé, mais s'ils ne nous traitent pas correctement, nous prendrons des mesures.
En mai 2020, l'OMC perdait son directeur général, Roberto Azevedo. Si elle a pris tout le monde de court, cette démission n'a pas perturbé outre mesure le président américain Donald Trump, qui s'est contenté de rappeler à quel point il trouvait l'Organisation mondiale du commerce horrible, invoquant des raisons familiales pour interrompre son mandat avant son terme. L'ancien directeur général brésilien a rappelé à quel point l'institution se trouvait dans une impasse depuis le blocage en décembre 2019 de son organe de règlement des différends. L'impression de naufrage s'est renforcée cet été lorsque la presse a révélé que Roberto Azevedo avait quitté son poste non pour se lancer dans une carrière politique comme d'aucuns l'avaient pressenti, mais pour un poste de direction chez Pepsi. En pleine crise économique mondiale, le désaveu était cinglant. Difficile de ne pas y voir une marque d'impuissance dans le contexte actuel de rejet américain du multilatéralisme commercial. Alors que la crise induite par la pandémie de Covid-19 rend l'OMC plus nécessaire que jamais, le blocage auquel elle fait face depuis plusieurs mois semble la rendre aussi obsolète qu'indispensable. Pourquoi les États-Unis refusent-ils de nommer les nouveaux juges qui permettraient de remettre en marche l'organe d'appel de l'OMC? Comment les Européens se positionnent face à ce blocage? Dans quelle mesure la Chine en est-elle également responsable? Est-elle prête, la Chine justement, à faire des concessions? Quelles réformes faudrait-il d'ailleurs engager pour améliorer la situation? Pour évoquer tous ces sujets, nous avons invité ce matin Elvire Fabry, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse en charge de la politique commerciale à l'Institut Jacques Delors. Et puis à nos côtés également, Jean-Marc Sirouane, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. On a été, c'est vrai, un peu surpris à l'époque, au printemps dernier, lorsque, en pleine pandémie, en tout cas elle venait d'éclater, le directeur général de l'OMC a décidé de quitter son poste, alors même qu'il aurait dû poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Quel regard vous portez l'un et l'autre, on va commencer par vous, Jean-Marc Sirouane, sur cette démission un peu inattendue, il faut le dire.
Ah, c'était une démission inattendue, bien sûr. Alors c'est difficile d'interpréter les raisons profondes qui ont poussé M. Azevedo à renoncer à ce poste, mais sans doute effectivement une très grande lassitude et un sentiment d'impuissance, et peut-être l'idée que sa démission provoquerait une sorte de choc et conduirait les autres pays à mieux se définir par rapport à l'OMC, ce qui pour l'instant d'ailleurs ne s'est pas vraiment produit parce qu'on n'a pas vu tellement d'effets significatifs sur l'OMC. On a plutôt vu l'accentuation de la crise, notamment la difficulté presque anecdotique, mais malgré tout assez révélatrice, de l'intérim, désigner le directeur général adjoint qui prendrait l'intérim pendant les 2-3 mois, même sur cet aspect-là qui paraît assez mineur. On a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. C'est pas qu'on a eu du mal, c'est qu'on n'a pas réussi à
se mettre d'accord. Et on va voir si on arrive à se mettre d'accord pour le ou la successeur, parce qu'il y a des femmes qui sont en lice, on va y revenir. Elvire Fabry, à la fois sur cette démission inattendue, et puis peut-être sur le bilan de l'action de cet ancien maintenant directeur général. D'aucuns considèrent qu'en réalité, ce bilan est nul. Non pas forcément parce qu'il n'a pas eu d'action, qu'il n'a pas essayé, mais parce que tout simplement, tout est absolument bloqué dans cette institution.
Oui, alors juste pour revenir en deux mots sur l'annonce de sa démission, c'est vrai que ça tombait au moment le pire, si je puis dire, parce que des pleines crises pandémie, on se tourne vers les organisations internationales, on a besoin de coordination. Et on a vu tous les problèmes, au contraire, d'unilatéralisme dans les mesures qui ont été prises à travers le monde. La seule, si je puis dire, l'OMC n'avait pas besoin de perdre sa tête en perdant son directeur général après le blocage de l'organe d'appel, ce que vous avez rappelé en introduction. Le seul aspect peut-être positif dans le calendrier qu'on peut rappeler, c'est qu'il devait y avoir une réunion ministérielle, c'est-à-dire qui rassemble tous les membres de l'OMC, les 164 membres, puisque c'est une organisation de membres qui a lieu à peu près tous les deux ans normalement, habituellement, qui devait avoir lieu pendant la crise de la pandémie, qui a été au Kazakhstan et qui a été repoussée normalement, éventuellement, à l'année prochaine.
Et démission ou pas démission, elle aurait été repoussée.
Elle aurait été repoussée, absolument. Mais le calendrier nécessaire pour nommer un nouveau directeur général prend 6 mois et plus. Et pour pouvoir espérer avoir en place un nouveau directeur général qui puisse, à ce moment-là, gérer ce rassemblement des membres de l'OMC et un nouveau calendrier pour l'organisation, c'était important. Alors, sur le bilan d'Azevedo, c'est vrai qu'en termes de négociations multilatérales, c'est bien le fond du problème. C'est l'inertie de la machine qui caractérise l'institution depuis quelques années. Et maintenant, il n'a pas non plus pu freiner, endiguer la crise et le blocage de l'organe d'appel de l'OMC. Et là, la question de fond, c'est le désengagement des deux principales puissances au sein de l'OMC, d'abord les États-Unis et puis l'inertie chinoise au sein de l'organisation.
Un tout petit mot sur le calendrier. Jean-Marc Serouane, l'OMC a dit qu'elle aimerait bien désigner justement le ou la successeur d'ici les élections américaines. Est-ce que là, précisément, on n'aurait pas intérêt à un petit peu temporiser compte tenu des difficultés qui, a priori, vont aller avec cette élection extrêmement sensible? On est en train de répéter un peu partout qu'il est très probable qu'en réalité on ne connaisse pas l'issue du scrutin au lendemain de l'élection. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt justement à attendre, sans compter qu'en réalité la donne change dans le scénario où Trump est reconduit ou dans le scénario où Biden arrive?
Oui, c'est prévu en novembre, donc il y a en fait trois...
Ils ont prévu en novembre, mais ils vont essayer de le faire avant les élections.
Oui, ils vont essayer, oui, tout dire qu'on va essayer. Enfin, une des grandes habitudes de l'OMC, c'est de retarder. La négociation de Doha, qui devait se terminer en 2005, n'est toujours pas terminée. Donc, il faut pas trop...
Oui, au niveau des calendriers à l'OMC, oui, d'accord.
Par les délais. Donc, ça peut rentrer dans le calendrier OMC. Tout va dépendre de la position des États-Unis. Soit que les États-Unis obtiennent le candidat qu'ils veulent, et on ne sait pas trop lequel, peut-être l'anglais, soit ils ne l'obtiennent pas. Mais... dans ce cas-là, effectivement, il faudra attendre le résultat des élections. Là aussi, je pense que ça se fera plus ou moins par un consensus à l'OMC ou par défaut. C'est-à-dire, si on sent qu'on n'arrive pas à désigner un candidat avant les élections américaines, eh bien, sans doute que ça sera retardé. Mais alors après, vous dire exactement où on en est, quelle est la pensée profonde de chacune des parties, sachant que le successeur doit être désigné par consensus, ça devient un peu compliqué.
On va essayer quand même de rentrer justement dans cette complexité. Elvire Fabry, aujourd'hui, il ne reste que 5 candidats. Alors, je vais les nommer. Il y a la ministre kényane Amina Mohamed, il y a l'ancien ministre des Finances nigérian Ngozi Okonjo-Iweala, la ministre du Commerce de la Corée du Sud, Yoo Myung-hee, et puis le saoudien Mohamed El Touadjiri, pardon pour la prononciation, et enfin l'ancien ministre écossais du commerce extérieur, Liam Fox, auquel faisait référence à l'instant Jean-Marc Serouane. Les chances des unes, parce qu'il y a beaucoup de candidates, et des autres, et surtout lequel ou laquelle serait susceptible de sortir du blocage. Pour le comprendre, il faut savoir lequel est Washington compatible, puisque c'est ça l'enjeu.
On est tenté depuis le début de regarder un peu les origines géographiques d'abord des candidats. Et il est certain qu'actuellement, dans le contexte, qui est le facteur majeur de blocage de l'OMC, encore une fois, qui est la confrontation entre les États-Unis et la Chine, tout candidat qui puisse être un peu à mi-chemin, sur un terrain un peu plus neutre entre les États-Unis et la Chine, est plutôt un candidat favorable pour la nomination.
Donc un candidat africain.
Donc voilà, ça plaide d'autant, ça plaide d'autant plus pour un candidat africain que donner davantage de place dans la représentation à des pays ou une région de pays émergents. C'est une aspiration, c'est une demande très forte qui a été exprimée depuis plusieurs années par un certain nombre de membres de l'OMC, et ils sont nombreux. Donc on voit très bien que ça peut, disons que le spot se concentre quand même bien sur l'Afrique, et il y a le facteur ensuite, féminin ou pas, le fait d'avoir le premier directeur général femme à la tête de l'OMC qui plaide, mais comme vous dites, il y a pas mal de femmes candidates dans cette liste. En tout cas, ça resserre un petit peu, si je puis dire, l'étau sur éventuellement deux candidatures féminines africaines, nigérianes et kenyanes.
Et est-ce qu'elles seraient des candidates acceptées, Jean-Marc Sirouen, par Washington, par l'administration américaine?
J'en suis pas sûr. Lorsqu'on regarde les désignations qui ont été faites récemment, notamment à la Banque interaméricaine de développement, ou même au Fonds monétaire international, ce sont des très très proches de Trump. Alors il n'y a pas de candidat américain, donc ce qui change un petit peu la donne. Mais je suis pas complètement certain que Donald Trump accepterait une candidature africaine. Pour lui, l'Afrique, c'est quelque chose d'un peu loin. Ça lui rappelle Obama, peut-être. En tout cas, je suis pas certain qu'il appuiera systématiquement. C'est vrai qu'au sein de l'OMC, il y a une envie d'avoir à la fois un Africain, surtout si c'est une Africaine. De là à ce que Donald Trump partage cette volonté, eh bien on verra peut-être.
Mmh. Elvire Fabry, vous vouliez réagir, et puis je vais me permettre de glisser encore une question sur ce sujet, parce que c'est vrai que les négociations là qui vont s'ouvrir, en tout cas pour le ou la prochaine directrice générale, on va avoir des enjeux politiques très forts. Je veux dire, c'est pas seulement des enjeux techniques, et donc au fond, le profil technocrate n'est pas forcément le bon profil. Il faut peut-être un profil qui a un véritable poids politique. Il va falloir trancher sur des choses éminemment politiques, voire carrément idéologiques. Il y a par exemple le dossier sur la question de la taxe carbone européenne qui fait extrêmement peur, et du côté américain et du côté chinois même. Donc il va falloir trancher sur des sujets très politiques. Est-ce que précisément l'ancien ministre écossais sur ce point-là, qui est pas un technocrate, qui est un pur politique, et qui donc pourrait peut-être peser dans les négociations, serait pas le bon profil, je mets des guillemets sur la formule? Elvire Fabry.
On va dire, sur la position des États-Unis, sur le choix du prochain directeur général, ça nous renvoie à l'interrogation que l'on a depuis le début de la présidence de Trump. Est-ce qu'il veut sortir les États-Unis de l'OMC? Est-ce qu'il veut juste bloquer l'OMC? Est-ce qu'il y a éventuellement un petit reste, une petite appétence pour une réforme de l'OMC? Et c'est évidemment du côté de Biden qu'on se tournerait pour aller un peu plus vers une réforme de l'OMC, un réengagement des États-Unis.
Attendez, si l'administration de Trump voulait sortir de l'OMC, elle l'aurait déjà fait. Trump n'a aucun problème à sortir des traités, à sortir des institutions. On l'a vu avec l'UNESCO, on l'a vu évidemment avec le traité sur le climat, et je parle même pas évidemment de celui sur le nucléaire iranien. En général, quand Trump n'aime pas un traité, une institution...
Il le fait rapidement.
C'est clair.
C'est très clair.
Là, il l'a pas fait.
Il aime bien aussi jouer la menace. Il aime bien utiliser la menace. Et c'est une pression en tant que telle. Et il voit bien également ce qu'il peut tirer de l'OMC. Il faut pas oublier que tout en menaçant de bloquer l'organe d'appel auquel il est arrivé, les États-Unis continuaient à déposer des plaintes auprès de l'organe d'appel. Donc
qu'est-ce qu'il peut obtenir de l'OMC, Trump?
Il peut obtenir, regardez l'arbitrage entre Boeing et Airbus, c'est quand même dans les règles de l'art, c'est quand même dans le respect des règles de l'OMC que les États-Unis ont imposé des sanctions, et l'Union européenne est impatiente également d'attendre la décision de l'OMC pour pouvoir à son tour imposer des sanctions à Boeing, parce que les deux entreprises se tiennent par le bout du nez sur la question des subventions. Maintenant, sur le profil... Sur la question, c'est puisqu'il s'agit d'un vote au consensus, une recherche de consensus, les États-Unis peuvent tout bonnement décider de bloquer la décision. Mmh. Et on voit bien que dans la campagne américaine, ce n'est absolument pas au cœur des préoccupations ni du président, ni des débats politiques. Donc ça peut être simplement une question qui peut être remise à plus tard. Les États-Unis peuvent décider, Washington peut décider de bloquer la décision. Maintenant, sur le profil du directeur général, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il faut un leader politique ou est-ce qu'il faut, au contraire, quelqu'un qui va créer du consensus? On a envie de répondre les deux. Les deux, parce qu'il va, les deux vont être nécessaires. C'est-à-dire qu'il va falloir, on voit bien que les sujets, au moment où on lutte contre, de manière plus engagée sur, contre le changement climatique, au moment où l'économie du numérique explose, au moment où, surtout les enjeux de propriété intellectuelle, les enjeux sont colossaux en matière de régulation internationale. Donc il faut de l'initiative politique, mais il faut un travail de construction de consensus plus important que jamais, à un moment où, avec 164 membres, il est difficile de construire ce consensus et qu'il y a un problème sur l'enjeu de la définition des pays en développement. Il n'y a pas de définition au sein de l'OMC qui permet d'identifier cette question, et c'est vraiment une question qui bloque la recherche de consensus.
On va revenir sur ce point. Jean-Marc Sirouen, il faut aussi rappeler pour les auditeurs, donc l'OMC, on le sait, abrite un organe de règlement des différends. C'est vraiment l'une de ses missions principales, puisque l'autre volet, c'est la question de la négociation des accords. Il se trouve que cet organe est donc bloqué depuis décembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les reproches formulés par Washington à l'égard de cet organe de règlement des différends? Et est-ce qu'il vous semble, en tout cas en partie, ces reproches justifiés?
Il y a certains reproches qui sont certainement justifiés, mais j'ai un peu l'impression que c'est un prétexte. La création de cet organe de règlement des différends tel qu'il a fonctionné, c'est une sorte de miracle dans l'histoire de l'OMC. C'est un miracle qui est dû, je dirais, aux circonstances. Le mur de Berlin était tombé. On avait beaucoup confiance en la Chine qui allait se rallier à l'économie de marché et peut-être même à la démocratie. Donc, dans une ambiance plutôt euphorique, les États-Unis ont accepté ce qu'ils n'ont jamais accepté ailleurs, c'est-à-dire de voir leur souveraineté remise en cause par l'organe de règlement des différends. Accepter qu'une organisation internationale leur dise « Vous avez tort, vous devez changer votre loi, vous devez changer votre politique et si vous le faites pas, vous risquez des sanctions ». Ça, les États-Unis ne l'ont jamais fait dans d'autres circonstances. Donc déjà, ce règlement des différends, c'est une sorte de miracle. Le président Clinton, à l'époque, pour obtenir la ratification, avait dû faire un certain nombre de promesses au Congrès pour obtenir cette ratification. Donc les États-Unis n'ont jamais tellement bien accepté cette procédure de règlement des différends, qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient républicains. Obama n'était pas non plus aussi un peu bloqué la désignation des juges. Donc moi, je pense que le fond du problème, c'est que les États-Unis ne veulent plus. Et les réformes qui sont demandées et les défauts qui sont mis en évidence sur cet organe de règlement des différends sont un peu des prétextes. Alors ces défauts, c'est quoi? Bien, c'est que les délais sont un peu trop longs. C'est en principe 60 jours, 90 jours maximum. Dans les faits, c'est beaucoup plus long que ça. Notamment souvent parce que les États-Unis essaient de ralentir la procédure. Une question qui avait été beaucoup débattue au moment de la création de l'organe des règlements des différends, qui était l'obligation pour les juges de raisonner en termes de droit, uniquement en termes de droit, donc de limiter leur interprétation des textes. Et les États-Unis considèrent, mais l'Union européenne un peu aussi, que parfois les juges d'appel vont au-delà de leur mission.
Vous avez un exemple sur ce point? C'est très important.
Faudrait regarder donc effectivement les différents cas qui sont évoqués, mais c'est vrai que souvent l'organe des règlements des différends était obligé de se prononcer, par exemple sur le principe de précaution. Et d'aller peut-être un peu plus loin que ce qu'il y avait dans les textes qui eux-mêmes sont très ambigus. C'est-à-dire que l'organe des règlements des différends a certes été parfois obligé de faire un petit peu le droit avec l'espoir d'une jurisprudence qui qui s'imposent, mais souvent dans des textes qui étaient relativement contradictoires, notamment sur ce principe de sécurité. Et ça, effectivement, les États-Unis utilisent cet argument en disant carrément que l'organe des règlements des différends viole les textes de l'OMC, ce qui, d'un point de vue strictement juridique, est peut-être en partie vrai, mais qui ne résout pas vraiment la question.
Elvire Fabrice, c'est en partie vrai.
Il y a deux cas spécifiques de règlements qui ont particulièrement créé de l'animosité côté américain à l'égard de l'organe d'appel, qui datent de 2011-2014, qui concernent l'usage que la Chine fait de ses subventions à travers les subventionnements très importants qu'elle utilise dans les entreprises publiques chinoises. Et ce que les États-Unis reprochent à l'organe d'appel, c'est d'avoir tranché, dans les deux cas, en faveur de la Chine et en ayant limité la capacité des États-Unis à répondre à ces distorsions commerciales. Et ce qui était en cause, c'était l'interprétation de la définition d'une entreprise publique selon le contrôle qu'exerçait l'État sur l'entreprise publique. Est-ce qu'il y a un représentant du gouvernement chinois qui participe au board? Est-ce que c'est le financement direct? Est-ce que c'est une question qui était discutée et qui était interprété par l'organe d'appel. Et là, en fait, on touche le nerf névralgique, véritablement, du rôle de l'OMC aujourd'hui. Les États-Unis reprochent à l'OMC de limiter leur possibilité de lutter contre ce qui aujourd'hui est un des principaux leviers de distorsion dans le commerce international, parce que les entreprises publiques chinoises bénéficient davantage incomparables par rapport à leurs concurrents.
Est-ce qu'il y a une exagération d'interprétation sur le rapport rendu récemment à propos des taxes douanières américaines? Il y a un récent rapport d'experts de l'OMC qui ont dit que ces taxes n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Est-ce que là, il y a une exagération ou est-ce qu'en effet, au regard des règles traditionnelles de l'OMC, effectivement, cette décision et cette guerre commerciale lancée par Trump n'est pas légale? Jean-Marc Sirouen, allez.
Oui, alors on n'est pas au niveau de l'organe d'appel dans ce cas-là.
Absolument, oui, tout à fait.
Non, l'argument américain ne tient absolument pas la route dans ce cas. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un grand principe aussi qui est lié à l'organe des règlements des différends, à la manière de régler les différends, c'est qu'un pays n'a pas le droit d'imposer des sanctions sans avoir l'aval de l'OMC. Donc pour pouvoir imposer des sanctions, les États-Unis ont été cherchés dans des textes assez peu utilisés qui permettent, dans certains cas effectivement, d'imposer des sanctions et de ne pas respecter les règles normales du GATT. En l'occurrence, c'est une atteinte à la moralité publique. Donc ça veut dire que les États-Unis considèrent que c'est une forme d'immoralité inacceptable de violer la propriété intellectuelle comme ils le font. Donc l'article 20 du GATT, qui était un peu oublié sur de nombreux points, qui ne tient pas la route. De même qu'ils utilisent l'article 21 comme exception concernant la sécurité, un article qui avait pratiquement jamais été utilisé, ou lorsqu'il avait été utilisé, c'était pour la guerre des Malouines, mais là qui est appliqué aux importations d'acier canadiennes, aux importations d'acier européenne au nom de la sécurité nationale, ce qui évidemment ne tient pas non plus, ne tient pas la route. Donc là, dans les cas que vous évoquez, c'est plus une surinterprétation du droit, c'est les États-Unis qui se moquent du monde.
Elvire Fabry, parmi les critiques américaines, une que vous avez un tout petit peu effleurée tout à l'heure, c'est la question de ce statut de pays en développement dont bénéficie précisément la Chine et qui donne accès à un certain nombre d'avantages, par exemple, vous avez des délais supplémentaires pour appliquer les nouveaux accords. C'est vrai qu'on peut s'interroger quand même sur ce statut, alors même que la Chine pourrait devenir la première puissance économique à l'issue de cette crise sanitaire, c'est ce que beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore considérer que la Chine doit bénéficier de ce régime aussi favorable alors que c'est le leader économique mondial des années, des décennies à venir?
Oui, il n'y a pas de définition à l'OMC de pays en voie de développement. Ce sont les pays eux-mêmes qui se déclarent en fonction de l'évolution, de leur croissance économique, développement. Enfin, on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères qui sont concernés. Et comme vous le dites, la Chine, et selon la formule, c'est connu, c'est un pays riche avec beaucoup de pauvres et c'est un pays pauvre avec beaucoup de riches. Mais c'est quand même un pays qui est en passe de devenir la première puissance économique d'ici quelques années, et qu'elle se cache derrière ce statut de pays en développement pour tirer parti, en effet, de toute une série de politiques qui ont été mises en place au niveau de l'OMC pour aider les pays en développement à intégrer le commerce international.
Et est-ce que Pékin est prêt éventuellement à lâcher ce statut ?
Non, il y a une très forte résistance de la part de Pékin. Et c'est là où on rentre dans le jeu géopolitique de l'OMC, parce qu'il y a l'enjeu des procédures, en effet, du respect ou non des procédures, les critiques américaines qui sont exprimées. Et puis, il y a l'enjeu géopolitique que l'on a, qui est de pouvoir, pour se réengager dans les négociations au niveau multilatéral de manière efficace, il faut avoir les principales puissances autour de la table. Et actuellement, on a la Chine qui soutient dans son discours très fortement le multilatéralisme et la survie de l'OMC, mais qui ne vient pas s'asseoir à la table des négociations en prenant des engagements sur la question des subventions, sur la question du transfert de technologies forcées ou pas, c'est-à-dire qui engagerait des réformes importantes de son capitalisme d'État. Et du coup, les États-Unis qui s'éloignent de la table des négociations et qui nous disent ça ne nous intéresse plus de rester autour de cette table des négociations. Et l'enjeu pour les Européens, qui s'affichent comme des leaders de défense du multilatéralisme, c'est précisément de parvenir à ramener les États-Unis. Mais pour ça, il faut réussir à avoir la Chine et à exercer une pression suffisante sur la Chine pour qu'elle prenne des engagements.
Jean-Marc Sirouane, est-ce que les Européens peuvent jouer ce rôle de médiateur et est-ce que vous avez le sentiment que l'Union européenne joue le soutien de Washington dans ce combat contre la Chine ? Parce qu'on se dit a priori que dans ce combat-là, en tout cas, on est plutôt du côté américain. Nous avons, Européens, intérêt à ce que la Chine plie sur un certain nombre de choses, qu'elle respecte les règles, comme le font toutes les parties de ce collectif. Et c'est vrai que jusqu'ici, c'est pas tellement le cas. A priori, on devrait être en soutien des États-Unis. C'est le cas ou pas ?
Oui, sur un certain nombre de points, l'Union européenne défend les mêmes thèses que les États-Unis, hein, notamment sur la réforme de la procédure de règlement des différends, sur la propriété intellectuelle. Bien sûr, l'Union européenne est un peu sur le même plan que les États-Unis.
Mais
tout ça doit se régler dans une négociation. Pour tout ça, il faut négocier. C'est-à-dire que si on demande à la Chine de faire des concessions, il faut aussi qu'on accepte de faire des concessions à la Chine. Quelles concessions sommes-nous prêts à faire à la Chine ? Sinon, c'est un dialogue de sourds. Hein. Je vois pas pourquoi la Chine accepterait de revenir sur un certain nombre de questions qui sont importante pour son système politique économique, si par ailleurs il n'y a pas d'autres concessions. Et là, c'est le problème actuel, hein, c'est-à-dire que tous les pays demandent quelque chose aux autres pays, mais sont pas très prêts à concéder eux-mêmes. Et tout le mécanisme de l'OMC repose sur ce donnant-donnant.
Il y a encore des choses à concéder à la Chine ?
Ah bah certainement. Certainement, notamment sur les taxes douanières textiles qui sont relativement élevées. Alors ça peut être l'Union européenne, ça peut être aussi des concessions d'autres pays qui soient soutenues par l'Union européenne. Mais nous ne sommes pas aussi ouverts que cela à la Chine. Nous avons un tas de droits anti-dumping qui vise spécifiquement la Chine. La Chine est le pays qui supporte le plus de droits anti-dumping, pas forcément à tort d'ailleurs. Et peut-être que la Chine pourrait demander aussi une réforme des droits anti-dumping. D'ailleurs, ils l'ont demandé d'ailleurs, pas forcément obtenu. Des droits anti-dumping qui bénéficiaient aussi justement d'une pénalité sur les droits anti-dumping qui étaient plus exigeants pour la Chine qu'il ne l'était pour les autres pays. Donc il y a un certain nombre de points, effectivement, de négociations possibles.
Elvire Fabry, vous voulez réagir ?
Oui, à vrai dire, ce qui pourrait intéresser les Chinois, c'est que le marché européen ne se ferme pas davantage déjà à la Chine. Alors c'est plus une mesure de rétorsion, c'est pas une concession. Mais on voit qu'actuellement la posture européenne vis-à-vis de Pékin est beaucoup plus défensive. Déjà, on a mis en place un mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans l'Union européenne qui est une première amorce de coordination entre les Européens. On a renforcé les instruments de défense commerciale, comme vous le disiez sur l'anti-dumping, les délais sont plus courts, enfin le bras est plus musclé. Et on s'apprête à mettre en place un contrôle beaucoup plus vigilant de mise en œuvre des accords commerciaux. Et le marché européen pourrait se fermer bien davantage.
On parlait de la taxe carbone. La taxe carbone pourrait être éventuellement un outil qui fermerait encore le marché européen aux Chinois.
Ce serait pas discriminatoire vis-à-vis de certains pays, dont en particulier la Chine, mais on voit bien qu'en tout cas, c'est pas une initiative qui plaît beaucoup à Pékin en tant que telle. Et puis surtout, on est en train de discuter un mécanisme de contrôle des subventions étrangères dans les investissements. Et là, on s'intéresse de plus en plus à l'origine des subventions pour savoir si c'est une origine économique ou s'il y a un gouvernement qui est derrière. Et ça, c'est quelque chose qui ne plairait pas du tout à Pékin. Donc il y a une volonté européenne beaucoup plus offensive. Et puis une initiative, que vous posiez la question de l'alignement ou pas avec les États-Unis. Évidemment qu'on a beaucoup d'intérêts en commun avec les États-Unis. On n'est pas d'accord sur la solution. Les États-Unis sont sur une solution unilatérale et de confrontation. Ce que veulent les Européens, c'est des règles du jeu pour une compétition qui soit équitable, parce que c'est beaucoup plus durable dans le temps que l'approche unilatérale.
On était avec vous, Elvire Fabry, et vous, Jean-Marc Sirouane, dans cette semaine consacrée à la gouvernance mondiale dans la tourmente. Aujourd'hui, on parle de l'OMC, un avion sans pilote. On va faire un peu de retour en arrière, toujours intéressant de prendre un peu de champ et rappeler ce contexte de la création de l'OMC. D'abord, rappeler qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est évidemment obsédé par la crainte d'un nouveau conflit. Et pour l'éviter, il faut absolument rassembler les conditions du développement économique et social des pays. C'est d'ailleurs mentionné dans la Charte des Nations Unies. On crée alors le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1947, avec cet objectif de baisser les prix, mais aussi de créer des emplois. Au départ, ça concerne qu'une vingtaine de pays, et puis progressivement, d'autres vont se rallier. On va être à peu près à 120 pays en 1994, au moment où on va décider donc de la création de l'OMC qui vient remplacer ce GATT. On est évidemment après l'effondrement de l'URSS. C'est un nouveau monde qui s'ouvre.
C'est l'accord économique international le plus important depuis l'écroulement du communisme. Il commence à redessiner un monde où la guerre commerciale pourrait, faute de règles, remplacer la guerre froide. Il propose aux pays en voie de développement de nouvelles relations avec les pays industriels.
Cela nous impose de travailler davantage, de croire à notre chance, de nous battre un peu à l'instar des pays des autres continents. L'Asie, il y a environ un demi-siècle, était dans la position que nous connaissons aujourd'hui.
Pour Gérard Longuet, qui signe au nom de la France, il va falloir mettre sur pied l'Organisation mondiale du commerce qui remplacera le GATT en 1995 et qui devra inclure cette fameuse clause sociale.
La clause sociale va être intégrée dans les éléments du commerce international. Ce ne sera plus simplement la loi du salaire le plus bas, il y a la perspective pour les pays qui commercent entre eux d'élever le niveau salarial, même pour les plus pauvres.
Voilà, c'était il y a 26 ans, archive du 15 avril 1994, on est là à Marrakech. Vous entendiez notamment le commentaire qui disait « il ne faut pas que la guerre commerciale suive la guerre froide ». Jean-Marc Sirouane, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On est en pleine guerre commerciale, de ce point de vue-là, c'est un échec patent de l'OMC.
Oui, il n'y a pas eu de clause sociale, hein, contrairement à ce que dit Gérard Longuet. Il n'y a pas de clause sociale dans le traité de Marrakech.
C'était l'ambition première, mais il n'y a pas eu.
Il n'y a pas eu et il n'y aura pas. C'est-à-dire que tout de suite, on a dit non, il n'est pas question de parler de clause sociale, donc il n'y en a toujours pas. Sauf peut-être si on regarde ce fameux article 20 que j'évoquais tout à l'heure, mais qui n'a jamais été utilisé. Excusez-moi, je me souviens plus de votre question.
Ce que disait le commentateur, c'est que la création de l'OMC avait pour objectif d'éviter que la guerre froide laisse place à la guerre commerciale. Quand on regarde les choses aujourd'hui, 26 ans plus tard, on est en pleine guerre commerciale. C'est donc un échec patent de l'OMC.
On est en guerre commerciale et en guerre froide.
Oui, les deux.
C'est-à-dire qu'on a les deux et les deux sont pas forcément complètement indépendants. C'est un échec de l'OMC, mais l'OMC aime répéter à raison raison que c'est une institution qui est conduite par ses États membres. Donc je pense que c'est un échec beaucoup plus général, qui est l'échec de la coopération internationale et l'échec du multilatéralisme tel qu'il avait effectivement été conçu après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis avaient un statut d'hégémonie bienveillante, mais c'est une hégémonie bienveillante qui coûte cher, à tout point de vue, et que les États-Unis ont accepté plus ou moins bien et n'acceptent plus pour beaucoup pour l'instant.
Elvire Fabry, compte tenu de ce constat d'échec qu'on est en train de dresser aujourd'hui, est-ce que finalement il ne faudrait pas revenir en arrière? Est-ce qu'on n'est pas dans le contexte du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement un petit club pourrait reconstruire un nouveau GATT, c'est-à-dire compte tenu des réticences de la Chine, il y a des observateurs qui préconisent cette option-là. Compte tenu des réticences de la Chine, compte tenu de cette incapacité aujourd'hui de régler ce différend entre les États-Unis et la Chine, pourquoi pas ne recréer une entité avec des pays qui, eux, accepteraient de nouvelles règles en mettant évidemment Pékin de côté.
Alors déjà un point. Déjà, un point qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas se passer de régulation internationale. On voit très bien qu'aujourd'hui encore, avec une OMC qui n'a pas de directeur général, qui a un organe d'appel, donc le muscle judiciaire de l'OMC bloqué, les États membres continuent à respecter les règles de l'OMC. Si l'OMC s'effondrait véritablement, qu'il n'y ait plus de règles, que ce soit le Far West du commerce international, à un moment où on est en train de voir exploser complètement le volume des subventions à travers le monde dans tous les plans de relance pour faire face à la récession, on voit bien toutes les distorsions.
C'est déjà le cas, Elvire Fabry.
Mais l'ampleur de...
Plus personne ne respecte les règles de l'OMC.
Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez des arbitrages...
Il y a des subventions d'État absolument partout avec les plans de relance. Oui. Et il n'y a plus d'organes de règlement des litiges. L'OMC n'existe plus.
Alors, justement, sur cette question des subventions, ce qui est vrai, c'est qu'à l'OMC, il y a des règles minimales. Que ça ne concerne que certaines subventions, que c'est un chantier prioritaire en matière de négociation qu'il faudrait pouvoir mettre sur la table. C'est bien ça le sujet des prochaines années et du prochain directeur général. Ça va être un sujet majeur de distorsion. Maintenant, pour revenir à votre question, comment recréer des règles? Je pense qu'actuellement, la priorité, c'est plutôt de réfléchir à des formats plurilatéraux au sein de l'OMC ou adossé à l'OMC, qui s'appuie sur le secrétariat général de l'OMC et qui respecte les règles de l'OMC, c'est-à-dire qui pourrait...
Pas une entité alternative, mais...
Non, pas de l'extérieur, mais qui pourrait, un peu sur le mode de l'initiative qui a été prise par les États-Unis, l'Europe et le Japon sur la question des subventions industrielles, puisqu'on a eu un accord début janvier qui est encore un accord de principe, mais qui est quand même un accord majeur, justement, qui amarrait les États-Unis sur cet enjeu, qui était un engagement des trois grandes puissances à réduire les subventions industrielles pour exercer une pression sur la Chine, pour essayer d'obtenir de la Chine qu'elle s'engage sur cette question. Le format plurilatéral au sein de l'OMC, il faudrait qu'il soit ouvert, transparent, pour pouvoir avoir une approche inclusive, mais pour créer des espaces, comme vous le disiez, c'est recréer de l'espace de coopération, mais plutôt au sein de la machine.
Jean-Marc Serouen, et puis ensuite on va accueillir Paul Touret pour parler du commerce maritime, qui est évidemment le moteur du commerce international. Jean-Marc Serouen.
Oui, sur votre question, ce que vous évoquez, c'est-à-dire la création de clubs, on a essayé de le faire. C'était même la stratégie du président Obama, notamment avec les traités transatlantiques et les traités transpacifiques. C'était exactement ça. C'est-à-dire, c'est non seulement un accord commercial, mais c'est aussi un accord sur les règles du jeu qui contourne la Chine, et avec l'idée que ces règles du jeu à terme concernerait 70 ou 80% du commerce international et que la Chine ne pourrait plus faire autrement que les respecter.
Et Trump a suspendu.
Et pas que Trump, la négociation transatlantique, Trump l'a suspendue, mais elle était déjà en réalité en situation d'échec avant que Trump soit élu. Et Trump a effectivement suspendu le traité transpacifique. Donc ça a échoué, cette tentative-là a échoué. Est-ce qu'il faut la relancer? Je suis pas sûr. Je suis tout à fait de l'avis d'Elvire Fabry sur le fait que la seule voie qui n'a pas été suffisamment approfondie, mais qui existe... c'est la voie plurilatérale, c'est-à-dire effectivement des accords qui concerneront certains pays. Alors les avantages pourraient être ou ne pas être étendus aux pays non signataires, mais ça permettrait effectivement d'aller beaucoup plus loin sans violer certains pays ou en leur imposant ce qui n'est pas envisageable, des règles dont ils ne voudraient pas.
On va accueillir tout de suite Paul Touré pour parler du commerce maritime, parce que entre l'explosion survenue cet été dans le port de Beyrouth à la suite de l'abandon par son propriétaire d'un navire contenant du nitrate d'ammonium, entre la marée noire qui s'est déversée au large de l'île Maurice, la crainte d'en voir une nouvelle du côté du Yémen avec ce pétrolier à la dérive, on a un peu l'impression que ce trafic maritime échappe à tout contrôle. Bonjour Paul Touré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR. D'abord, je disais une impression. Est-ce que c'est une impression qui est confirmée par les chiffres? Est-ce qu'effectivement, on a eu ces derniers temps davantage d'accidents et autres catastrophes? Ou est-ce qu'en réalité, quand on prend un tout petit peu de chance, c'est pas si évident que ça?
On pourrait dire que ça a vraiment baissé. On a regardé ce matin rapidement et on s'est aperçu qu'en regardant les chiffres, en fait, on a 10 fois moins de pollution pétrolière accidentelle. Hein. Ces fameuses pollutions qui faisait l'actualité, hein, de la Mococadis il y a presque 30 ans, tout ça a plutôt baissé. Ce qu'il y a effectivement, c'est qu'on a des accidents de temps en temps, et puis médiatisation, internationalisation de l'information, on a comme ça une impression un peu différente. On a eu l'accident de Tianjin il y a peut-être 2 ans, on a de temps en temps des vraquiers sur la barrière de corail en Australie, donc c'est vrai qu'on a une accidentologie médiatique qui n'est pas forcément en rapport avec les progrès de la sécurité maritime.
Alors, au-delà de la question des marées noires, Paul Touré, il y a un phénomène qu'on voit, là, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, c'est celui d'abandon de navires. Depuis 5 ans, par exemple, on a ce pétrolier FSO Safer qui est abandonné dans la mer Rouge au large du Yémen. Il y a ce tanker donc menacé par le délabrement qui risque de déverser quand même plus d'1 million de barils de pétrole qu'il contient en cas de naufrage. Il y a d'autres exemples, évidemment, d'abandon de navires. J'ai évoqué celui du port de Beyrouth qui a provoqué la catastrophe qu'on sait. L'ampleur de ce phénomène, lui, a-t-il augmenté? Est-ce qu'on a de plus en plus d'abandons de navires?
Alors, c'est presque un résultat des efforts de sécurité et de sûreté maritime qui sont menés par les autorités internationales maritimes comme par les principaux États. À force de contrôler, finalement, on a des navires sous normes, on a des navires qui posent problème, qui sont aujourd'hui abandonnés dans des ports, là où ils finissaient souvent au fond des mers il y a plusieurs décennies. C'est un peu comme pour le contrôle automobile, on se retrouve avec des voitures. En bateau, on n'a pas forcément une mise à la casse, on a des fois aussi des abandons sauvages. Et c'est vrai que ces phénomènes-là existent. Et
mais qu'est-ce qu'on peut faire? On arrête de contrôler?
au contraire, plus on contrôle, plus ça va progresser. Le risque, c'est toujours une forme de contrôle de qualité et nombreux dans les mers occidentales. Alors ça peut être du côté américain, du côté européen, mais aussi du côté chinois, par exemple, laissant effectivement le reste de la planète avec ce qu'on appelle des fois le black shipping, hein, ce transport maritime de mauvaise qualité fait par des mauvaises personnes dans des mauvais endroits, qui fait qu'effectivement on a ce phénomène d'abandon des navires et des marins.
Si on a plus de contrôle, c'est notamment grâce à ce nouvel outil, le Port State Control, qui a été mis en place depuis 2006, qui permet à n'importe quel État de faire un contrôle sur tout navire qui fait escale chez lui. C'est un outil qui a permis d'améliorer un peu la situation.
Exactement, il a permis des grands apports. Ça remonte en fait à une idée française du début des années 80, suite justement à la Mococadix. C'est puisqu'il y avait une déficience des états du pavillon, et on sait tous les pavillons tropicaux qui existent à l'arrière des navires sont signe finalement de quelque chose, hein, ce grand libéralisme. Et pour lutter, on a mis en place des contrôles dans les états du port, notamment en France, au Japon, enfin en Europe, au Japon, aux États-Unis, et tout ça a permis d'établir des listes de sécurité qui ont tendance à faire monter le niveau d'exigence, et même les pavillons, fameux pavillons de complaisance ou ces registres libres sont aujourd'hui tout à fait conscients qu'il faut être dans des règles, parce que si vous voulez gagner de l'argent dans un état, une petite île des Caraïbes, il vaut mieux être sur du qualitatif, parce qu'on est sûr après d'avoir des normes de transport satisfaisantes. Et finalement, on gagne aujourd'hui plus d'argent en faisant de la qualité que de la mauvaise qualité. Mais il existe effectivement ces pavillons noirs, on pourrait dire, qui est résiduel et auquel il faut s'attaquer en permanence.
Alors justement, ces pavillons noirs, ces pavillons de complaisance, ce qu'on remarque toujours dans les catastrophes maritimes, c'est que les différents protagonistes se renvoient un peu la balle entre l'armateur, donc le propriétaire, l'affréteur, qui est celui qui exploite, l'état du pavillon. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment avec ce vraquier japonais, où là, tout le monde se renvoie la balle, hein, ce vraquier japonais qui est responsable de cette marée noire sur l'île Maurice. Est-ce qu'on peut et comment apporter davantage de transparence? Est-ce que, par exemple, interdire toute totalement le pavillon de complaisance, c'est-à-dire obliger au fond l'armateur de battre pavillon dans le même état que celui où il travaille. Est-ce que ça, c'est possible, Paul Thoret?
Ça semble un peu difficile. On vient de parler de commerce international et il faut dire que l'efficience du commerce international par l'efficience, passe par l'efficience du commerce maritime et quelque part par ce fonctionnement très international. On parlait souvent de la situation des marins, des fois difficile. Et c'est vrai que les registres libres dans des États de toute nature, hein, y compris des fois par exemple parlant du Portugal qui a établi un système autour de Madère qui s'apparente quelque part à ces registres internationaux favorables. C'est aujourd'hui un des fonctionnements. Si on veut s'y attaquer, c'est une vraie question. On a des États du pavillon qui ont intérêt à cette préservation dans l'équilibre international du monde maritime. On a aussi des États armateurs. Parlons du Danemark qui soutient très bien ses grandes compagnies nationales. On sait que la Grèce marche aussi pour ses compagnies maritimes. Donc aujourd'hui, on a une espèce de point d'équilibre qui tient que parce qu'il y a cette pression sécuritaire. Mmh. Et d'où l'intérêt aussi de ces États européens comme la France, qui des fois est à côté, on le voit bien en Bretagne, doit veiller à la sécurité maritime, mais aussi à l'intérêt de ses armateurs, hein, puisque c'est tout le problème de ce transport maritime moderne auquel il faut presque, on va dire, contenir d'une manière réglementaire, sécuritaire, dans l'environnement et social aussi.
Mais est-ce qu'il y a des discussions, au moins, sur ce sujet? Il y a un organisme, l'Organisation Maritime Mondiale, qui est censé apporter des cadres, apporter un peu de régulation pour cette activité maritime. Est-ce qu'elle y travaille? Est-ce qu'elle essaye?
Elle y travaille d'autant plus que effectivement le nombre d'accidents s'est réduit. On a eu après le Prestige et l'Erika la question du double coque pétrolière qui a limité quand même les accidents. Puis on a un progrès aussi avec les technologies de suivi. Aujourd'hui même la preuve que l'OMI est en avance et qu'elle lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dont le transport maritime est un responsable, pas un grand responsable, est un responsable. On parle de décarbonation. On voit que cette industrie finalement avance. Alors il lui faut effectivement la pression sociale ou sociétale post-accident souvent pour avancer. On n'en a pas parlé, mais par exemple les conteneurs perdus en mer posent problème aujourd'hui pour différentes raisons. Et on est bien en lien avec le commerce international. Dans ces conteneurs, il y a des produits chimiques de toute nature, il y a des produits dangereux qui aujourd'hui presque peuvent être un risque bien supérieur qu'une marée. Alors une marée noire fait référence parce qu'elle a ce côté destruction de l'environnement visible. Mais aujourd'hui, on a un transport maritime de conteneurs qui peut poser problème. On a eu des cas d'accident, des bateaux qui prennent feu. Et ça peut très bien être l'accident de demain et l'accident le plus proche. Peut très bien des un porte-conteneur qui prend feu dans un port européen peut être aussi dangereux ou aussi problématique qu'une pollution sur une barrière de corail ici ou là dans le monde.
Et en cas de problème, justement, Paul Thoret, en cas de litige, il y a, je crois, un peu comme à l'OMC, on en parlait avec Elvire Fabry et Jean-Marc Serouen, une instance, une sorte de justice indépendante, des arbitrages qui remplacent d'une certaine manière les États. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin là de ramener un peu les choses, les litiges, dans le giron des États?
Alors, il y a les chambres arbitrales maritimes qui règlent les problèmes d'armateurs, mais heureusement, encore une fois, grâce aux grands accidents, on peut en parler de Exxon Valdez en 89, l'Erika et le procès qu'il y a eu avec le préjudice environnemental, il faut cette pression écologique. On parle souvent de la croisière, par exemple, des tribunaux en Floride ont mis des amendes aussi aux armateurs de la croisière pour non-respect de l'environnement. Il faut, encore une fois, il peut y avoir une autorégulation, mais on sait qu'elle doit passer par l'extérieur. Et je crois que la justice européenne, américaine, mais aussi demain chinoise, il ne faut pas désespérer de la Chine sur ces questions-là, peuvent faire progresser justement dans la condamnation, l'avancée. On l'a vu dans les règles de pollution, hein, que dans les ports européens, on a vu aussi des paquebots à Marseille condamnés. J'allais dire la carotte et le bâton. Il faut de toute façon un bâton. C'est le moindre chose dans un commerce très internationalisé, et puis il faut pas oublier, hein, sur les océans, il n'y a plus de contrôle. Voilà, ça fait partie quand même de cette industrie-là.
Quand vous dites, Paul Thoret, et puis je vais faire réagir mes invités ici en plateau, quand vous dites qu'il ne faut pas désespérer de la Chine, il y a des signes qui nous laissent justement de l'espoir en la matière? qui viennent de Pékin.
La Chine a mis des réglementations sur les gaz à effet de serre maritimes dans ses eaux qui sont pas encore hyper rigoureuses, mais elle l'introduit. Je pense que l'accident de Tianjin, mais une partie des accidents qui arrivent aujourd'hui en Chine, montre qu'il doit y avoir un souci environnemental et que tout régime autoritaire doit au moins faire attention à sa population. Et la Chine est obligée de progresser environnementalement. C'est peut-être un des avantages aujourd'hui, c'est que l'allié chinois peut être intéressant dans les questions environnementales. Si les Américains y renoncent, c'est presque dire le régime chinois est obligé de progresser. Et tous les scandales qu'on a eus, souvenons-nous du lait dans la bakélite, les fièvres porcines et les accidents industriels, doit montrer quand même à Pékin qu'il faut faire des efforts environnementaux. Mmh. Et je crois qu'on a tout intérêt, notamment nous les Européens et les acteurs européens, notamment du transport maritime, de trouver aussi des alliés chinois pour faire progresser les choses.
Elvire Fabry, Jean-Marc Sirouen, c'est vrai qu'on parle assez rarement du commerce maritime, alors que là, on parle aujourd'hui ensemble du commerce international, et qu'en réalité, le commerce international, il s'appuie sur le commerce maritime. C'est concrètement ça qu'il y a derrière. On entend souvent les responsables politiques parler des dérives du système financier, des faillites de banques, mais rarement du commerce maritime. Or, c'est le moteur de la mondialisation, et donc il y a besoin aussi là de mettre un peu de régulation, Elvire Fabry.
Oui, 90% du commerce des biens passe par la voie maritime. Donc en effet, c'est la matrice du commerce international. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin, on se dit de plus en plus, pour trouver une cohérence plus forte entre l'ouverture du commerce international et la lutte contre le changement climatique, de porter cet enjeu à l'agenda de l'OMC. Alors, vous évoquiez justement une fois de plus la position de la Chine. Bon, il faut quand même rappeler que la Chine est signataire de l'accord de Paris, que la Chine se veut de plus en plus compétitive dans un certain nombre de technologies vertes et très engagées, et que l'on compte sur la Chine comme étant un partenaire possible justement pour pousser cet agenda, un agenda plus vert. Maintenant, juste un petit point, c'est que pour le moment, on s'intéresse au commerce des biens, mais le commerce de demain, c'est le commerce des services, donc le commerce digital.
Là, il n'y a pas besoin de bateau.
Oui, mais commerce digital qui a une forte empreinte carbone dont il va falloir éventuellement parler aussi.
Jean-Marc Sirouen, en quelques mots, on arrive presque au terme de l'émission.
Oui, et c'est aussi un des problèmes dans tout le discours sur la mondialisation, puisque le commerce maritime, c'est polluant, c'est coûteux. Donc c'est un des arguments qui est souvent avancé aussi pour réduire le commerce maritime. Et donc pour réduire le commerce maritime, il faut réduire le commerce international. Donc c'est un débat, je dirais, aussi politique et idéologique. Alors c'est vrai que la Chine est plutôt plus positive là qu'ailleurs en apparence. Je crois que la Chine a en mémoire Tchernobyl et les conséquences qu'il y a eu ensuite sur l'URSS, est très très effrayé par une multiplication de catastrophes de ce type, y compris d'ailleurs la catastrophe sanitaire du Covid.
Oui, dont on avait dit que ce sera peut-être le Tchernobyl de la Chine, on attend toujours. We walked around till the sun went down as the skyline played the stars. You asked about my future plans and said they all sounded good, and that in New Orleans a woman told you things to confirm you and I should, but it don't. Merci beaucoup à tous nos invités. Paul Tourek est avec nous à l'instant par téléphone. Jean-Marc Sirouen, Elvire Fabry, d'écorcher votre nom, je m'excuse. Merci infiniment en tout cas de nous avoir éclairés ce matin. On poursuivra demain notre série consacrée à la gouvernance mondiale. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et à l'approche des élections américaines de novembre, on recommence à parler d'interférences russes. Les leçons de 2016 n'ont pas été retenues, Brice?
Il est impossible de mesurer l'efficacité du coup de pouce donné à Donald Trump par Vladimir Poutine il y a 4 ans. Comme le remarque Alina Polyakova dans Foreign Affairs, voilà une opération de politique étrangère qui n'aura pas coûté cher à l'État russe, puisque le budget de la ferme à trolls de Saint-Pétersbourg, la désormais fameuse IRA, est évalué à 1 million 250 000 dollars mensuels. Avec des moyens aussi ridicules, cette agence russe a touché 126 millions d'utilisateurs américains sur Facebook et a attiré 1 400 000 followers sur Twitter. Mais comme l'écrit cette universitaire qui est également présidente du Center for European Policy Analysis, le but de Poutine était autant de donner un coup de pouce à Trump que de démontrer que la démocratie en tant que telle est dysfonctionnelle. Alors ces campagnes, on le sait maintenant, se sont déroulées selon un scénario identique. Première étape, on crée des centaines de faux comptes qui prétendent appartenir à des citoyens américains ordinaires. Ils trouvent des moyens d'attirer l'attention afin de recruter de nombreux suiveurs. Phase 2, ces faux comptes se mettent à diffuser des messages véhéments. Par exemple, en se faisant passer pour anti-immigrés, comme le site Secure Borders sur Facebook, d'autres pour favorables à Black Lives Matter, comme le site Blacktivist. Le site monté par les services russes United Muslims of America a compté ainsi jusqu'à 300 000 followers jusqu'à sa suppression. Phase 3. Ces faux comptes lancent des appels à se regrouper et à manifester. Le comble a été atteint lorsque les services russes sont parvenus, figurez-vous, à mobiliser deux groupes mutuellement hostiles et à les faire se défier dans les rues, ce qui s'est passé à Houston en 2016. Il y avait un groupe qui manifestait contre l'islamisation du Texas face à un autre qui soutenait la liberté de culte des musulmans. Et ces deux manifestations antagonistes avaient le même organisateur, le GRU, les services secrets de l'armée russe. Bien sûr, les manifestants l'ignoraient.
Mais Brice, on n'est plus aujourd'hui dans ce contexte-là.
En effet, toute une communauté de spécialistes s'est constituée aux États-Unis qui mêle des compagnies privées de cybersécurité, des consultants, des associations de défense des libertés. Et cette communauté conseille efficacement les partis politiques et leurs candidats. Mais leurs travaux étant rendus publics, en face, les agents russes en profitent, eux, pour renouveler leurs méthodes. Ainsi, ils préfèrent, on le sait, désormais louer des sites existants dans des pays cibles plutôt que d'opérer directement depuis le territoire russe. Alors certes, la commission d'enquête dirigée par Robert Mueller a permis de mettre à jour le fonctionnement de certains services russes. Elle a d'ailleurs fourni jusqu'à l'identité des principaux responsables de la fameuse usine à trolls et le rôle qui joue le GRU en livrant des noms aux médias. Et pourtant, il est fort probable que Poutine recommence dans les prochains jours. Sa propagande vise à affaiblir les sociétés occidentales en aggravant leurs divisions. Et bien, vu l'état de la société américaine après 4 ans de pouvoir de Donald Trump, le terrain est plus favorable que jamais. Les antagonismes idéologiques, raciaux, religieux sont à leur zénith. Et surtout, relève Alina Polyakova, la faiblesse des représailles américaines aux interférences connues de 2016 a non seulement enhardi les Russes, mais convaincu d'autres adversaires des États-Unis qu'ils pouvaient à leur tour se lancer dans la bataille pour le contrôle des esprits. Surtout dans un contexte politique marqué par la guerre d'usure menée par Trump lui-même contre ses propres services. La Russie et les autres n'ont qu'à pousser la porte ouverte, écrit-elle. Le chef du National Counterintelligence and Security Center, William Evanina, a émis un avertissement. Des pays étrangers sont en train d'essayer d'orienter les préférences électorales, de modifier la politique et d'accroître la discorde dans notre pays, a-t-il récemment prévenu. Deux autres pays ont été expressément désignés par lui comme auteurs de telles campagnes, la Chine et l'Iran. Mais si Moscou fait campagne contre Joe Biden, Pékin et Téhéran, au contraire, visent Trump. Les États-Unis sont tristement mal préparés à un tel scénario. Ils ont fait peu pour dissuader de telles attaques, écrit également Alina Polyakova. En fait, on ne sait même pas quel service en est chargé. Vous avez certes le Global Engagement Center, qui dépend du département d'État et qui est censé en charge de contrer la désinformation étatique, mais vous avez aussi la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, constituée par Trump lui-même en 2018, qui est également chargée de la cybersécurité des organes de l'État. En outre, les démocrates déplorent que l'administration Trump donne décidément bien peu de détails sur ce qu'elle parvient à savoir. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'en est plainte expressément. Vous me direz, que reste-t-il de la fameuse puissance américaine si le choix de son dirigeant suprême y est à la merci de puissances étrangères ?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.